Vous êtes bien sur Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Gros plan dans votre édition sur la future loi immigration, dont plusieurs mesures ont été annoncées. Notre invité sera le député de la Meuse, Bertrand Pancher, président du groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire. Au Liban, le Parlement décide que le gouvernement sortant de Najib Mikati peut continuer à expédier les affaires courantes. L'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan, victime d'un attentat, il a été blessé à la jambe après des coups de feu lors d'un rassemblement politique. Deux Palestiniens ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie occupée. C'est arrivé lors d'un raid de l'armée israélienne à Jénine. Le départ de la route du Rhum 2022 dimanche prochain, plusieurs skippers ont apporté leur soutien à l'ONG SOS Méditerranée qui porte secours à des migrants en mer. Nous écouterons son président François Thomas. Les salaires des accompagnants d'élèves en situation de handicap vont augmenter de 10% en septembre prochain, une annonce du gouvernement. Brigitte Giraud remporte le prix Goncourt 2022. L'écrivaine est distinguée pour son roman « Vivre vite » édité par Flammarion. Le gouvernement français veut faciliter l'insertion des travailleurs étrangers avec la création d'un titre de séjour dédié aux travailleurs sans papiers titulaires d'un emploi. Cela dans les secteurs en manque de main-d'œuvre. Ce sera l'une des mesures inscrites dans le futur projet de loi immigration. Projet de loi attendu au début de l'année prochaine. Cette future loi doit aussi introduire une série de mesures pour rendre les obligations de quitter le territoire français plus efficaces. Entretien avec le député de la Meuse, Bertrand Pancher, président du groupe Liberté Indépendant dans Outre-mer et territoire.
Il ne faut pas se voiler la face, on a sur notre territoire environ 300 000 personnes en situation irrégulière. Qu'est-ce qu'on fait de ces personnes? Il est clair que ceux qui viennent d'arriver sur le territoire et qui n'ont pas de titre de séjour, bon, il faut accélérer les instructions des dossiers. Et si ils ne sont pas détenteurs d'un droit d'asile, on ne peut pas ouvrir la porte à tout le monde. Il faut donc qu'ils repartent chez eux. Ça pose d'ailleurs le problème du nombre de personnes qu'on renvoie. On est le pays de l'Union européenne, entre parenthèses, avec le plus de procédures de renvoi, à peu près 120 000 obligations de quitter le territoire en France, et avec le moins de résultats, seulement 14% des personnes peuvent repartir. C'est-à-dire que c'est quand même compliqué même de renvoyer ces personnes. Mais on a parmi ces 300 000 personnes en situation irrégulière, un grand nombre de personnes qui seront jamais renvoyées chez eux, les mamans avec des enfants, les personnes qui sont depuis longtemps sur le territoire, avec des enfants qui sont scolarisés. Donc ces personnes-là qui sont exploitées scandaleusement, eh bien, il faut leur permettre de pouvoir travailler. J'observe des ouvertures dans ce sens-là avec beaucoup d'intérêt, c'est-à-dire faire en sorte que si on s'engage à rentrer dans des métiers en tension, ben, on a un titre de séjour qui permet au moins de travailler de façon légale. Si on travaille déjà avec un employeur qui est scrupuleux et lequel employeur a envie vraiment d'embaucher la personne, qu'on puisse le faire. Donc je trouve vraiment que tout ça est de bon sens, parce que on a cette vraie question à traiter. C'est pas la peine de pleurnicher avec des larmes de crocodile en disant mais tout le monde dort dehors dans tes toiles de tente, tout ça c'est scandaleux. Traitons le problème du bon côté, et ça fait partie des questions qui sont intéressantes dans ce projet de loi.
Et cela répond à une problématique, le manque de main-d'œuvre, mais ce manque de main-d'œuvre est souvent lié au niveau de rémunération dans ces secteurs, secteur du bâtiment ou encore secteur de la restauration.
Oui, alors évidemment. Alors là, il y a deux questions hein, dans votre interrogation. D'abord, comment mieux rémunérer les petits salaires? On voit bien qu'il y a des chefs d'entreprise qui font peu de résultats et qui ont du mal à payer leurs salariés. Moi, je discutais avec un de mes copains qui est patron d'une entreprise de taxi dans mon département. Il me dit qu'on peut pas payer plus les gens parce qu'on fait pas plus de résultats. Il faut diminuer les charges. Ben, moi, je pense que il faut diminuer les charges, enfin supprimer toutes les charges entre 1 et 3 SMIC et pour que ça coûte rien, les faire payer sur les charges salariales, sur les gros salaires. Et puis ensuite, il y a la question des entreprises qui pourraient réellement rémunérer leurs salariés en les payant davantage. Je suis quand même très frappé par les résultats parfois importants des entreprises, pas uniquement des grosses, mais aussi des petites. Moi, j'ai deux entreprises de bâtiments dans mon territoire, presque l'une en face de l'autre, même nombre de salariés. Il y en a une qui me dit, mais j'ai plein de problèmes, je trouve personne, tu comprends, on veut pas bosser. Il commence à payer ses gens à 1 500 € par mois. Et l'autre me dit, moi, j'ai aucun problème, je trouve le personnel, il les paye, il commence à les payer à 2 000 € par mois. Il travaille beaucoup sur la question de l'apprentissage. 60% de son personnel, c'est des apprentis. Et puis, en fin d'année, il met le bilan sur la table. Et puis, il y a une partie pour rémunérer les actionnaires. C'est clair. Il y a une partie également pour les investissements. Puis, il y a des primes. Donc, moi, je pense réellement qu'il faut s'attaquer à ces deux sujets pour faire en sorte que nos salariés soient beaucoup mieux rémunérés.
Donc votre groupe, le groupe que vous présidez, Libertés Indépendants Outre-mer et Territoires, votera pour cette mesure. Ce ne sera pas le cas du groupe Les Républicains. Aurélien Pradier a dénoncé une campagne de régularisation massive suite à ces annonces.
Moi, je trouve qu'il faut arrêter de mettre de l'huile sur le feu. C'est des propos qui sont scandaleux et lui-même n'y croit pas. S'il était passé un seul moment de sa vie pour aller discuter avec des migrants qui sont là depuis plus de 10 ans, qui sont exploités, les enfants sont scolarisés, jamais on les ira. C'est scandaleux de dire qu'on fait de la régularisation massive, quoi. C'est pas ce qu'on veut faire. Il faut qu'on fasse attention pour régulièrement pouvoir instruire les dossiers. On a une demande, c'est le pays des droits de l'homme. Il y a la question du droit d'asile quand on vient d'Afghanistan, d'Iran ou d'ailleurs. Il faut accueillir les personnes, faut pas être naïf, faut pas accueillir tout le monde. Parce que sinon, on n'a pas la possibilité évidemment de le faire. Donc ceux qui ne peuvent pas, ne doivent pas aller sur notre territoire, il faut les renvoyer. Et puis il y a le stock des personnes qui sont là depuis tout le temps. Vous allez renvoyer une maman qui est toute seule, qui a accouché en France avec l'enfant qui est né en France. Et M. Pradier, il va jamais le faire. Donc c'est pas la peine de faire des effets de manche en parlant comme ça aux médias. Il faut être sérieux, il faut à la fois réguler et puis il faut à la fois être aussi humain. Je ne dis pas qu'on va voter ce texte de loi, mais je pense qu'il y a semble-t-il, pour le moment, des bonnes orientations.
Et vous évoquiez la question des OQTF, les personnes qui sont dans l'obligation de quitter le territoire français, une mesure qui s'applique peu. Le gouvernement veut inscrire les immigrés menacés d'expulsion au fichier des personnes recherchées. Comment accueillez-vous cela ?
D'abord, interrogeons-nous sur le nombre de personnes obligées de quitter le territoire. On fait cocorico, on en a exactement 125 000 en France. On en a 3 fois plus que dans les pays qui nous entourent, Espagne, Allemagne, Italie. Et ces pays-là, ils en ont moins, mais il y a des reconduites aux frontières qui sont plus importantes. Nous, c'est seulement 14% des personnes qui sont reconduites aux frontières. Dans les pays qui nous entourent, c'est 33%. Donc, on voit bien que c'est pas la peine de faire une fixette, qu'il y a les droits de l'homme, il y a des procédures, qu'on ne peut pas renvoyer n'importe qui, et puis comment vous allez renvoyer des personnes dans des pays qui sont en guerre ou dans des pays qui disent « mais nous, on refuse de les accueillir parce que ils sont pas de chez nous ». C'est pas le tout de faire ça sous un claquement avec un claquement de doigts. Et puis j'oublie qu'il y a un sujet qu'on n'évoque pas du tout, c'est ce qu'on appelle les Dublinés, procédure de Dublin. Il y a 50 000 migrants en France qui sont dans cette procédure-là. C'est-à-dire que si vous posez un pied dans un pays, eh bien c'est le pays concerné qui dit « voilà, vous avez le droit au droit d'asile ou pas ». Et si le pays dit « vous n'avez pas le droit au droit d'asile », qu'est-ce que fait la personne concernée ? Elle change de pays pour voir si le pays a des règles différentes en termes d'accueil et de droit d'asile. Il faut réglementer tout ça sur le plan européen et faire en sorte qu'il y ait une vraie stratégie européenne dans ce domaine, parce que sinon on va se renvoyer en permanence nos migrants. Donc on voit bien que le sujet est difficile. C'est bien de le traiter comme veut le traiter le gouvernement, même si on va regarder comment on vote texte de loi, mais croire qu'on fait tout ça en un claquement de doigts, c'est une farce et ça contribue à rajouter de l'huile sur le feu.
Vous soulignez la complexité de ces questions et justement le fait d'inscrire ces personnes menacées d'expulsion au fichier des personnes recherchées. Comment accueillez-vous cela ? Est-ce une réponse trop simpliste pour vous ?
On pourra mieux suivre les gens. C'est pas ça qui va suffire. Interrogeons-nous aussi pourquoi des personnes ne disposent pas de leurs papiers. quand on voit qu'il y a une dématérialisation et une absence de traitement humain dans toutes les préfectures de France, et que les procédures sont incompréhensibles pour avoir accès aux droits quand on est migrant, ben, faut pas s'étonner aussi qu'il y ait autant de personnes qui soient sans qui soient sans droits. C'est incompréhensible. Donc moi je réclame également du traitement humain. C'est bien de suivre les personnes qui font l'objet d'obligations de reconduite à la frontière, hein, de façon à ce qu'on sache exactement qui est qui, mais en même temps, on a réellement besoin de traiter humainement tous les sujets.
Et vous avez noté donc les réactions des Républicains et du Rassemblement national pour passer, pour être adopté. Ce texte aura besoin des voix de la gauche.
Oui, peut-être, peut-être des notes également. C'est pour ça que le texte a besoin d'être équilibré. Je trouve que c'est bien que le Parlement fasse son travail.
Le député de la Meuse, Bertrand Pancher, il préside le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire. Au Liban, le Parlement décide que le gouvernement sortant de Najib Mikati peut continuer à expédier les affaires courantes. Décision lors d'une réunion consacrée ce jeudi à l'étude d'une lettre envoyée dimanche par le désormais ancien président libanais Michel Aoun. Dans ce contexte de vide présidentiel dans le pays, le patriarche maronite, le cardinal Béchara Rai, a appelé à organiser une conférence étatique sous l'égide de l'ONU sur la présidentielle libanaise. L'épidémie de choléra au Liban. Une personne est décédée, 6 autres ont contracté la maladie, une annonce du ministère de la Santé dans son rapport publié ce jeudi. Le Liban a jusqu'à présent enregistré 406 cas confirmés de la maladie depuis le début de la première épidémie de choléra dans le pays depuis 1993. L'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan, victime d'un attentat, il a été blessé à la jambe après des coups de feu. C'est arrivé lors d'un rassemblement politique à 200 km au sud de la capitale. Il se trouve dans un état stable, selon l'un de ses proches conseillers. L'homme soupçonné d'être l'auteur de l'attaque a été tué. Devenu premier ministre en 2018 et renversé en avril par une motion de censure, Imran Khan a pris la tête vendredi dernier d'une longue marche sur la capitale Islamabad pour obtenir la tenue d'élections anticipées. Deux Palestiniens ont été tués dans un raid israélien à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Une annonce du ministère palestinien de la Santé. Le ministère fait aussi état de 4 blessés. 3 policiers israéliens ont été blessés dans une attaque dans la vieille ville de Jérusalem. La police affirme que l'assaillant a été tué. L'inflation atteint des sommets en Turquie. Elle s'élevait à 85,5% sur un an au mois d'octobre. Un niveau record en 25 ans, en cause la flambée des prix de l'énergie. Ce chiffre officiel est contesté par les économistes indépendants du groupe de recherche sur l'inflation. Ils affirment que la hausse des prix atteint 185% sur l'année. Un nouveau drame de l'immigration clandestine. Les deux naufrages survenus lundi et mardi dernier en mer Égée, en Grèce, ont fait au moins une vingtaine de morts. Plus d'une cinquantaine de personnes sont présumées portées disparues. Le départ de la route du Rhum 2022 sera donné dimanche prochain à l'occasion de cette 12e édition de la course transatlantique en solitaire à la voile. Plusieurs skippers ont apporté leur soutien à l'ONG SOS Méditerranée, l'association qui porte secours à des migrants en mer. Un soutien qui intervient alors que la barre des 20 000 morts en Méditerranée vient d'être franchie. François Thomas, président de SOS Méditerranée.
Nous avons participé en effet à une table ronde avec des skippers, François Gabart en particulier. Il y a aussi Quito de Pavan, Yves Le Blévec et Roland Jourdain qui nous soutiennent, qui ont répondu à une tribune d'ailleurs qui avait été publiée dans le journal Ouest-France et qui rappelle que le sauvetage en mer est une obligation de tous les marins. C'est une obligation légale mais c'est également un devoir moral et c'était très important pour eux de participer à cette table ronde, de rappeler ce devoir. On ne se pose pas la question quand quelqu'un est en détresse, on lui tend la main, on se précipite à toute vitesse pour essayer de sauver une ou des vies. Donc ce rappel des marins solidaires était très important pour nous et c'était un grand moment d'échange et de partage. Ce soutien des skippers est très important, bien sûr, de rappeler ce devoir de tout être humain, finalement de répondre à un appel de détresse, c'est de l'assistance à personne en danger. En Méditerranée centrale, c'est la route migratoire maritime la plus mortelle du monde depuis 2014. Nous avons dépassé le chiffre de plus de 20 000 décès en Méditerranée centrale depuis 2014, il y a quelques jours. C'est un chiffre effroyable. Donc ce rappel des skippers est essentiel. On ne parle que de personnes en détresse. Le sujet des migrations est un sujet complexe. Le sujet de l'accueil est un sujet également complexe, mais on ne se pose pas la question du statut des personnes quand elles sont en détresse, comme le SAMU peut le faire. Nous avons un navire ambulance, et quand une personne est en détresse, on tend la main et on répond à cette détresse, tout simplement.
SOS Méditerranée est présente régulièrement sur ce type d'événement, la course du Rhum, mais aussi sur des événements culturels à travers la France, notamment à Montpellier récemment.
Oui, en effet, nous avons beaucoup de soutien, le plaidoyer est très important. SOS Méditerranée est présente dans 19 antennes en France, et puis nous sommes présents également en Allemagne, en Italie, en Suisse. Et il est très important d'avoir tout ce soutien dans de nombreuses villes. D'ailleurs, beaucoup de collectivités nous soutiennent. Il est très important de rappeler cette tragédie en Méditerranée centrale, de rappeler que une vie n'a pas de prix. Quand des personnes sont en détresse, il faut les sauver. Et donc, nous sommes présents dans beaucoup de festivals. Il y a beaucoup de personnes solidaires. Nous avons un grand comité de soutien également. Et il faut vraiment expliquer, témoigner de ce qui se passe en Méditerranée centrale face à cette tragédie. Les chiffres sont terribles. Les traversées de la Méditerranée ne s'arrêtent pas. Elles sont beaucoup plus importantes quand les conditions météorologiques sont plus favorables, en particulier l'été. Mais les moyens sont totalement insuffisants. Les ONG qui font ce travail humanitaire sont très seules. Et ce que nous demandons depuis déjà longtemps, c'est que les États européens soient solidaires envers l'Italie, envers Malte, mais solidaires en mettant des moyens de sauvetage en Méditerranée centrale et solidaires en donnant le moyen aux ONG de débarquer ces personnes, et en particulier en mettant un système de débarquement pérenne, prévisible, solidaire et coordonné afin que ces personnes puissent débarquer le plus rapidement possible. Et c'est ça qu'il faut, et il faut vraiment que cette tragédie s'arrête. Donc vraiment mettre des moyens en Méditerranée centrale.
Le président de SOS Méditerranée, François Thomas, il répondait à Loïc Barrière. Les salaires des accompagnants d'élèves en situation de handicap vont augmenter de 10% en septembre prochain, une annonce du gouvernement. Les 132 000 AESH de l'éducation nationale perçoivent en moyenne un salaire de 800 euros par mois, une rémunération qui se situe sous le seuil de pauvreté. Le prix Goncourt 2022 a été attribué à Brigitte Giraud. L'écrivaine est distinguée pour son roman « Vivre vite » édité par Flammarion. Brigitte Giraud succède à Mohamed Mbougarsar, couronné l'année dernière pour « La plus secrète mémoire des hommes » édité par Philippe Ray. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Un très grand merci pour votre fidélité et très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.